Radio Libertaire 89.4, toujours en direct de Saint-Imier, où nous allons démarrer la prochaine séquence. Il y a eu un petit problème, semble-t-il, à la fin du dernier morceau, mais voilà. C'est pas grave, ce sont les aléas du direct, et en plus un direct qui se fait de loin. Je suis en train de meubler là, ça s'entend, c'est terrible. Pendant que tout le monde est en train de s'installer autour de la table, nous allons commencer un bilan de l'ensemble des journées là qui se sont déroulées à Saint-Imier, des rencontres internationales de l'anarchisme. Le petit micro que tu as entre les mains, Serge, ce serait bien que tu le mettes devant mai, par exemple. C'est... vous voyez, vous entendez tout ce que l'on est en train de faire. Et puis, je vais peut-être tout de suite te donner la parole. Hugues, tu démarres, hein?
Je démarre, mais sur quoi ?
Ah bien, écoute.
Voilà, donc, si, démarrons alors. Je ne sais pas, on aurait peut-être pu donner la parole à nos camarades.
Oui, donc.
On va leur donner.
On va leur donner. Voilà, moi, ce que je dirais, ce que je souhaiterais, c'est que pour les auditeurs qui nous ont suivis durant cette semaine, on leur a sans doute dit à plusieurs reprises que 1872, c'était à la fois la naissance du mouvement anarchiste social, que ça avait mis le pied à l'étrier de ce mouvement qui construira ultérieurement la plupart des grandes organisations syndicales d'Europe, qui constituera des organisations spécifiques plus ou moins importantes. Mais ce que je dis là est vrai aussi pour l'Amérique latine, avec des développements dans pratiquement les deux tiers de la planète, sachant qu'il y a des zones sur lesquelles nous n'avions pas à l'époque d'implantation et dans lesquelles nous n'en avons pas toujours aujourd'hui. Et donc si 1872 a pu être le pied à l'étrier de l'anarchisme social, je considère, mais alors de manière très optimiste comme ça, mais au bout de 4-5 jours, c'est bien normal que je me fasse plaisir, que 2012 sera la deuxième marche du mouvement libertaire international. Et on a bien senti au cours de ces 5 jours, à la fois dans la qualité des débats, à la fois dans la façon dont on a été reçu ici, c'est-à-dire que 3-4 000 anarchistes dans une petite ville de province en France, je ne sais pas si on aurait été aussi bien accueillis. Et c'est vrai que Michel en parlera tout à l'heure. Le retour à la fois des autorités, parce qu'il y a des autorités en Suisse, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, et le retour de la population elle-même est tout à fait favorable. Et puis, donc on est capable de vivre ensemble pendant 8 jours, des cantines autogérées, des lieux autogérés, du cinéma, de la culture, de la politique. Et ça, c'est tout à fait important. Et puis, dernier élément, parce qu'il ne faut pas que je garde trop la parole, ce qui, moi, m'a beaucoup intéressé, c'est que toutes les générations de l'anarchisme était là. On avait des vieux et des vieilles compagnes qui frisaient les 82, 84 ans, et donc qui avaient vu des choses terribles. Et la dégradation du mouvement anarchiste, très largement, c'est la fin de la guerre d'Espagne, c'est la perte d'un certain nombre de choses. Et puis, des gens très très jeunes, quoi. On avait quelques très jeunes gens qui se réclament du même idéal que nous. Et ça me paraît très intéressant que dans cette société qui est soi-disant toujours en changement, qui va à toute vitesse, des gens de 17 ans et des gens de 82 ans peuvent avoir le même idéal. Hein, dans la délégation de la Fédération anarchiste française sur Saint-Imier, on était grosso modo un peu plus d'une centaine de militants de la Fédération anarchiste, ce qui est quand même pas rien. C'est moi qui distribuais les badges, donc je le sais, hein, c'est pour ça, j'ai compté. Eh bien, notre plus jeune militant a 17 ans, il est au lycée autogéré de Paris, et notre militante la plus ancienne, elle a 82 ans, et elle continue à vendre le monde libertaire, là aussi, dans le 19e arrondissement. Voilà. Et donc, ça aussi, que cette chaîne sociologique soit reconstituée, on a les plus jeunes, on a les plus anciens, on a toutes les sensibilités, pas la même culture, mais les mêmes idéaux, ça, c'est quelque chose de tout à fait intéressant. Et puis la jeunesse était vraiment là, en masse, si je veux dire. Voilà.
Michel.
Oui, alors, c'est vrai que on a eu beaucoup, beaucoup d'échos favorables de la part de la population. Il y a des gens qui ont dit « Ah, mais finalement, ces anarchistes sont sympathiques, ils sont cultivés, ils sont pleins de convivialité. » On a eu aussi les autorités qui nous ont demandé si on en faisait une l'année prochaine. Bon, certaines de ces louanges étaient quand même un peu intéressées parce que, évidemment, les commerçants ont bien fait leurs affaires durant cette période-là.
Oui, mais on a quand même été arrêté par des gens dans la rue qui n'étaient pas commerçants, hein, et qui étaient très contents.
Absolument.
Y compris de parler avec des anarchistes pour certains, pour certaines d'ailleurs. Hein, je pense à une dame en particulier. Et on a eu plusieurs échos individuellement. Donc ça a dû arriver à beaucoup de gens. Donc quand même, à la fois sur ce que vous avez organisé et aussi le travail que vous avez fait en amont, il y a une image des anarchistes qui a été un peu ébranlée dans ce qu'on avait mis dans les têtes de certains, je pense.
Ah, mais ça, c'est quelque chose qu'on a constaté. Évidemment, pour Espace Noir, c'est vraiment très intéressant. Il en restera quelque chose. En tout cas, si il y a pas de mauvaises choses qui se passent d'ici là, puisque nous allons arrêter demain, il faudra tout ranger. C'est vrai qu'on a aussi fait très attention pour démontrer ce dont on était capable, puis qu'est-ce que c'est que l'anarchisme, que ce n'est pas le chaos, que ce n'est pas le bordel. Eh bien, on a nettoyé régulièrement les rues, y compris les rues dans lesquelles on n'était pas, et ça a été vraiment très apprécié de la part de la population.
Tu parlais des autorités, là, tout à l'heure. Juste une toute petite chose, très brève. Moi, j'imagine que je ne suis pas la seule, extrêmement surprise par rapport à ce que l'on pourrait voir en France, de ne pas voir de déploiement policier dans les rues. C'était vraiment très agréablement surprenant.
Oui, c'est quelque chose qu'on avait négocié hein, aussi. On avait dit, de notre côté, on va faire tout pour tout ce qui se passe bien. La police, évidemment, ils veulent être là, mais pour que vraiment tout se passe bien, on compte sur vous pour que les gens soient discrets et n'interviennent vraiment que s'ils n'ont pas d'autres possibilités. Sur les discussions, il faut...
Il me semble aussi qu'il reste quand même une mémoire collective de ce qui s'est passé à Saint-Imier. Qu'on le veuille ou non, en 1872, même si on n'en parle pas beaucoup, ça a quand même existé, c'est quand même là. Et puis on sait que le Jura, c'est quand même une terre de lutte. Et je pense que ça y est quand même pour quelque chose. Qu'on ait pu organiser ça à Saint-Imier, puis que les autorités ont été quand même très, très conciliantes, arrangeantes, et puis qu'ils ont pris en compte ce qu'on demandait, justement ce travail avec la police, de rester discret, qu'on allait régler, nous, les problèmes, et que si vraiment on avait besoin d'eux, on ferait appel à eux. Puis je crois que là, on s'est bien compris, puis que tout le monde a bien joué le jeu.
Mais il faut aussi savoir que malgré tout, cette mémoire, elle avait été oubliée. Puis l'existence d'Espace Noir est beaucoup dans... Il y a beaucoup dans ce retour de mémoire. Et c'est quelque chose, quand même, un travail hein, qu'on a fait depuis 26 ans. Ceux qui ont commencé, moi, je n'étais pas au tout début. Hein, je suis rentré 3 ans après l'ouverture. La création d'Espace Noir, c'est là qu'on voit aussi l'utilité de travailler sur le long terme. On a fait nos preuves, il y a des gens qui ont vu le travail qu'on faisait, et même s'ils ne venaient pas, même s'ils critiquaient, ils se sont rendus compte qu'on était capable de réaliser des choses. Quand les copains ont commencé, les copines, évidemment, tout le monde se moquait un peu d'eux. Ils étaient sûrs que ils allaient se planter. Et maintenant, quand même 26 ans après, ça a bien changé.
Oui, c'est ce que tu dis est tout à fait illustré à ce qu'a dit May par rapport à les contacts qu'on a eus avec, je pense à une personne particulière qui a évoqué un peu tout ça, quoi. Et sauf qu'elle a dit qu'en plus, elle était déléguée syndicale, c'est quelqu'un qui est à la retraite. Et elle dit, mais vous savez, je sais ce qui s'est passé à Saint-Imier, etc. Et certainement, bon, peut-être, elle le savait, mais là, ça a été l'occasion pour elle. Et puis, visiblement, du coup, on a parlé beaucoup avec elle. Bon, c'est un exemple concret, mais certainement qu'il y en a dû, il y a dû y en avoir d'autres. Je pense que les gens, en tout cas à Saint-Imier, ils ont quand même quelque chose enfoui quelque part. Il en reste des traces pour certains. Et c'est certainement à cette occasion que ça a pu sortir pour certaines personnes. Enfin, nous, on l'a vécu comme ça.
En tout cas, il y a des gens qui nous ont, même pas beaucoup, mais de Saint-Imier, qui nous ont donné des coups de main à Espace Noir. Et puis, on a eu aussi des moments très forts que je crois qu'on peut évoquer, parce que
Mai
a particulièrement apprécié la journée d'hier. Je ne sais pas si tu peux nous en parler un peu de ce qui s'est passé hier derrière Espace Noir.
Alors, j'ai trouvé fabuleux cette autogestion entre des musiciens qui ont improvisé des tablas, tout le monde chantait, des chants anarchistes, c'était magnifique, ça a duré 3 heures de temps, sans sono, sans technique, sans lumière, et tout le monde était souriant, c'était vraiment un moment, j'ai trouvé, de grande amitié.
Oui,
très fort.
C'est un
moment très fort.
Et d'ailleurs, Patrick a fait de la prise de son pendant ce temps-là. Il en a fait un petit montage qu'il a passé au début de notre prise d'antenne en direct de Saint-Imier tout à l'heure. Et on le repassera à d'autres occasions.
Ça vaut vraiment la peine.
Un autre exemple aussi que, enfin, moi j'ai apprécié, c'est la journée d'hier, peut-être elle était particulièrement fastueuse, mais je ne sais plus, on courait un petit peu d'un lieu à l'autre pour enregistrer des choses, et on est passé, je ne sais plus à quelle heure, devant le centre de culture et de loisirs, et à l'extérieur, il y avait des gens qui étaient à l'extérieur, qui avaient improvisé un débat, je crois, relativement libre, d'après ce que j'ai pu comprendre, et la fameuse dame en question dit oui, j'y suis allé, et tout ça, c'est un peu qu'ils en ont parlé, c'est-à-dire que vous avez fourni un cadre, des lieux, un programme, etc., et au bout d'un certain temps, il y a eu des réunions qui sont faites en plus, par exemple. Les latino-américains, qui se connaissaient peut-être pour certains, pas d'autres, ont fait une réunion entre eux, justement, pour pouvoir discuter de ce qu'ils vont pouvoir faire ensemble. Il y en a eu autour des espérantistes, il y en a eu... et ça, c'est bien, parce que c'est... Et je tire mon chapeau à tous ceux qui ont travaillé pour préparer ça depuis 2 ans quand même, il faut le dire. C'est ça à peu près, hein, oui. Michel. La preuve que ça a marché, c'est que non seulement ce que vous avez mis en place a marché, même si les salles étaient souvent trop petites, ce qui est une bonne chose, mais qui pose certains problèmes, mais il y a un certain nombre de gens, en tout cas, qui, après cette rencontre avec d'autres, on dit, ben, tiens, on va discuter de ça. Enfin, certainement, vous pouvez citer des dizaines comme ça d'initiatives horizontales qui ont même dépassé ce que vous aviez proposé.
Oui, alors on espérait bien qu'on arrivait là et on est très content de voir aussi que certains contacts ont été liés et que, par exemple, chez les anarcha-féministes, elles sont bien déterminées à travailler sur une espèce d'international. Je ne sais pas exactement leur projet, mais il semblerait que ça s'approche d'une internationale anarcha-féministe. On a eu, je dois dire, aussi une très bonne collaboration avec vous autres, les camarades français. Je ne sais pas si, John, tu peux parler un peu de ce rapport.
Alors moi, je n'étais pas là au tout début, mais depuis un an, c'est vrai que je suis venu régulièrement pour contribuer à l'organisation. Et ça a vraiment été un plaisir de participer. Et puis, j'ai appris pas mal de choses. Et même pendant l'événement, je pense qu'on a tous appris à bosser mieux ensemble et ça a demandé, je pense que la prochaine fois on sera encore mieux, quoi. Donc c'était déjà pas mal, vraiment bien. Donc moi je suis assez optimiste. Et puis on a eu une couverture médiatique tout à fait intéressante et je dirais un peu étonnante concernant les médias plutôt réformistes ou mass-médias qui... que ce soit de Suisse, que ce soit la presse locale ou nationale, et puis ensuite plus largement tous les pays frontaliers étaient là. J'ai pour ma part enregistré près d'une centaine d'accréditations et des médias qui venaient parfois de très loin pour faire des documentaires, dont un qui va débuter ici sur l'événement de Saint-Imier et qui va parler de l'anarchisme donc sous différentes formes.
Mais pour prendre la suite de ce que disait Mémé, moi, ce qui me paraît important dans ces réunions internationales, alors il se trouve que j'étais à Carrare en 2008, où il y a déjà eu le congrès de l'International des Fédérations Anarchistes, et c'est vrai qu'il y a des grands moments de fraternité comme ça, et c'est souvent autour du répertoire de la chanson révolutionnaire et de la chanson anarchiste en particulier, où il y a des vrais échanges entre la communauté italienne, la communauté française, un peu moins avec les Allemands, mais quelquefois aussi, éventuellement d'autres pays. Ça, c'est tout à fait important, ces grands moments-là. Et puis... ça permet aussi aux anarchistes et du monde entier de confronter leur anarchisme. Quoi. C'est facile de dire je suis anarchiste, mais en France. Et donc là, on rencontre d'autres camarades qui viennent du Venezuela ou qui viennent du Japon et qui, comme nos plus anciens et nos plus jeunes de tout à l'heure, bien qu'il y ait des milliers de kilomètres entre nos pays et des différences tout à fait importantes dans nos cultures, et bien là encore, des gens aussi différents qu'un Japonais, un Vénézuélien et moi-même, on peut partager le même idéal. Et ça aussi, c'est tout à fait intéressant de mon point de vue. Et pour revenir à Saint-Imier, là encore, pour montrer l'importance de notre manifestation... je crois que le musée de Saint-Imier, qui est un musée tout à fait intéressant, où il y a de belles pièces d'horlogerie, des belles choses comme ça, puis des choses moins belles qui relèvent de l'armée suisse, mais enfin bon, voilà, c'est comme ça. Mais enfin, il y a des choses qui renvoient au travail ouvrier. Il y a eu, je crois, puisqu'il était installé par Ramon et Wally, les affiches de la guerre d'Espagne, il y a eu 700 visites. Hein, 700 visites en 5 jours au musée de Saint-Imier. Je défie d'autres manifestations locales d'en faire autant.
D'ailleurs, par rapport au musée, je dois dire qu'on a eu la surprise que c'est eux-mêmes qui se sont proposés, quand ils ont appris qu'on faisait ça, de nous mettre leur salle à disposition. On a eu aussi, il faut le dire, une grande collaboration de Mémoire d'ici, qui est un centre de documentation qui recueille la mémoire d'ici, justement, et forcément qui sont très concernés par l'histoire de l'anarchisme, qui ont passablement de documents, pas autant qu'on aurait espéré, parce que beaucoup sont partis à Amsterdam, hein, des documents de la Fédération jurassienne. Je signale, il faudra qu'on le fasse une fois, qu'il existe en PDF, nous on l'a sur CD, l'ensemble des bulletins de la Fédération jurassienne, mis à part le premier. Mais il y a une copie du premier aussi, justement, à Mémoire d'ici.
Philippe, je crois que tu voulais intervenir tout à l'heure.
Oui, c'est la dimension un petit peu plus en termes de bilan politique, même si c'est un peu prématuré et à chaud dans l'euphorie ou la quasi-euphorie, ce qui est toujours un peu risqué. Pour rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure, ce que je trouve intéressant, et notamment par rapport au congrès de 1872, c'est la composition sociologique, je dirais même socioculturelle. C'est-à-dire que pour le coup, là, tous les continents étaient représentés, même l'Asie, alors peut-être pas l'Océanie encore. Des langues extrêmement différentes, bon, ça a été dit et répété, des hommes et des femmes, des générations différentes. Et après, par rapport à... Et c'est là qu'on rentre peut-être dans la difficulté politique et la nécessité du débat, c'est-à-dire dans la composition plus sociologique, au-delà des âges, il y a quand même, je dirais, des différences assez fortes entre ceux qui travaillent et qui ne travaillent pas, qui sont salariés et qui ne le sont pas, ceux qui sont obligés d'accepter le salariat et ceux qui essayent de le refuser et qui fonctionnent de façon, on va dire, en marge ou qui essayent de le faire. Et là, pour le coup, en termes plus politiques, mais aussi sociopolitiques, ça crée, je dirais, un choc de culture politique, mais de nouvelles cultures politiques, même si on les connaissait déjà, sauf que là, passé à l'échelle 3000, 3500, peut-être même 4000, les choses sont beaucoup plus visibles. Et je pense qu'il va y avoir aussi, du moins on peut l'espérer, une germination dans l'esprit, quand les choses vont un petit peu, qu'on va rentrer chez nous, pour voir effectivement, parce qu'en même temps il y a eu des critiques sur c'est pas assez ouvert, c'est pas assez ci, puis en même temps tout le monde a pris la parole, donc en fait c'était en réalité ouvert, on n'a pas assez parlé de ceci, pas assez parlé de cela, en fait on a parlé pratiquement de tout, à part peut-être quelques thèmes qui auraient été malheureusement oubliés. Donc en fait il y a la richesse, alors est-ce que cette richesse est une richesse qui est une richesse qui va vers le lien, vers les convergences, c'est-à-dire que vers ce qui nous unit, ou est-ce que c'est une richesse qui va vers l'éclatement, c'est-à-dire qui serait une force peut-être plus centrifuge. Ça, c'est une vraie question, hein, je pense, et qui, pour le coup, nous distingue du congrès historique, c'est-à-dire qui était un congrès, finalement, un peu de congrès ouvrier, j'allais dire classique, européen, et qui était dans une situation de crise, c'est-à-dire que, quand même, le schisme de la Première Internationale, c'est quand même le drame du mouvement ouvrier, enfin, ça a peut-être été dit, on peut le redire, c'est-à-dire un courant autoritaire qui l'emporte, une social-démocratie qui part à la conquête du pouvoir politique, soit par les élections, soit par l'insurrection comme les léninistes, avec les dégâts que ça a fait pendant un siècle. Or ça, on en est là, on est dans une phase de un petit peu difficile à évaluer, peut-être plus ou moins en phase avec ce qui se passe au niveau du mouvement des indignés, etc. Et la vraie difficulté politique, au sens noble du terme, sociétaire, c'est de créer les jonctions.
Oui, d'ailleurs, enfin, on va passer peut-être une pause musicale, Monique, mais en attendant que Monique ferme la fenêtre, je peux dire que pour avoir vu à peu près, comme j'ai dit, je crois, tout à l'heure, une trentaine de délégations, pas forcément de pays différents, puisqu'il a pu arriver une fois, d'ailleurs, je crois qu'il est d'un même pays, mais qui parlait de choses différentes, effectivement, on ressent ce que tu as dit, mais en tout cas, ceux qui sont venus avaient vraiment la volonté, non pas de dissociation, mais d'échange, comparaison, d'échange sur les expériences des autres, de compréhension, plus dans ce que proposeraient les apatistes, un monde pour tous les mondes, et donc avec le fédéralisme libertaire pour fédérer un peu tout ça. Enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti, même si c'est peut-être pas ces mots-là que tous ont... Mais personne de ceux qui sont venus en disant « on a la vérité vraie », ils sont venus en décrivant leur lutte dans leur pays, et ils avaient envie de connaître le maximum de choses. Ceci étant, je ne dis pas que ça reflète l'ensemble. Moi, je parle de ce qu'on a vu, nous, c'est-à-dire des gens qui sont venus ici à ce micro. Monique, un peu de musique pour nous faire réfléchir et répondre peut-être après.
Pavé planqué au centre-ville et bitume ancré dans ma zone. La plage fait place à l'amertume aux caisses brûlées par quelques mômes qui complètement déboussolés se mettent à s'auto-mutiler. Doit-on leur apprendre à l'école sur qui balancer leur peau de colle? Des profs qui approchent la soixantaine, qui à 20 ans crachaient leur haine direct à la gueule du pouvoir, ont-ils tous perdu la mémoire? Y'a plus de pavé, y'a plus de plage, y'a plus rien du tout, y'a plus que des cons, des endormis, y'a plus que des mous dans mon pays. Où sont passés les gens ferrats, les sociétés, tu m'auras pas? Rognés par nos chaînes de télé, réalité bien orchestrée. Sur ta radio, dans mon journal, à la fête de l'humanité, quand l'artiste vient d'Universal, je dis bravo Jean-Marie Messier. Tous d'accord pour dire qu'on est con, oui mais franchement on n'a pas de peau. Quand on nous fabrique un mouton, un coup de trique on devient ses agneaux. Y'a plus de pavé, y'a plus de plage, y'a plus rien du tout. Y'a plus que des cons, des endormis, y'a plus que des roues dans mon pays. Les syndicats qui autrefois osaient fustiger le patronat baissent leur froc et puis leurs bras devant le MEDEF qui a cœur joie. S'appliquent à flinguer code et droit sans résistance et sans émoi. Ils bricolent leur propre loi en nous disant qu'on n'a plus le choix. Notre société elle est pourrie suite aux années un peu à gauche. Et du nodon post-tsunami, faut pas se plaindre, on n'est pas si pauvre. Y'a plus de pavé, y'a plus de plage, y'a plus rien du tout. Y'a plus que des cons, des endormis, y'a plus que des loups dans mon pays. Jean Jaurès jusqu'à la Venelle Georges Brassens. Quand je me balade pendant la messe, y'a plus que les routes caddies qui grincent. Le PMU se remplit le tiroir caisse, les gens se voient prince ou princesse. Les éléphants font les tire-fesses par stratégie ou par paresse. Tous ces futurs présidents ont un passé bien répugnant. Pour le présent, l'immunité nous fera 12 ans de piétiner. Pour le présent, l'immunité, les votants vont se rhabiller. Y'a plus de pavé, y'a plus de plage, y'a plus rien du tout. Y'a plus des cons, des endormis, y'a plus des loups dans mon pays. Y'a plus de pavé, y'a plus de plage, y'a plus rien du tout. Y'a plus des cons, des endormis, y'a plus des loups dans mon pays. Y'a plus de pavé, y'a plus de plage, y'a plus rien du tout. Y'a plus des cons, des endormis, y'a plus des loups dans mon pays. Y'a plus de pavé, y'a plus de plage, y'a plus rien du tout. Y'a plus des cons, des endormis, y'a plus des loups dans mon pays.
Y'a plus de pavé. Olivier Trévidi, sur Radio Libertaire 89.4. Nous sommes toujours en direct de Saint-Imier, où nous poursuivons notre bilan de ces rencontres internationales de l'anarchisme.
Eh bien, il n'y a plus de pavé non plus à Saint-Imier, puisque à l'occasion du grand mouvement libertaire en train de se reconstituer, ils ont décidé de remettre un asphalte neuf dans la rue principale de Saint-Imier. Oui, un asphalte tout noir, j'espère.
C'est, en fait, c'est pour réduire le trafic, parce que Saint-Imier, c'est encore conçu comme dans les années 60, c'est-à-dire
une ville
que
rue, quoi.
La route qui relie Bienne à La Chaux-de-Fonds, les deux villes principales de la région, eh ben, elle passe en plein milieu de Saint-Imier. Mais en même temps, elle passe devant Espace Noir. c'est l'avantage d'être dans une région qui a subi des crises, c'est qu'on a pu avoir cet immeuble parce qu'il y avait beaucoup de populations qui sont parties. Saint-Imier a eu jusqu'à 7000 habitants.
Vous êtes à 4500, c'est ça?
Et on est à 4800, oui. Et puis, donc, plein d'immeubles se sont libérés, sont restés, se sont dégradés, et qu'on pouvait acheter bon marché, même en plein centre.
Ouais. Je voulais te poser une question, moi, sur tout simplement, parce qu'on n'a pas trop pu bouger la radio, même si on a eu des échos, on a réussi à aller voir quelque chose, mais il y a eu beaucoup de débats, ceux les débats en tout cas que vous aviez prévus en salle, et des débats où il y avait beaucoup beaucoup de monde, même souvent les couloirs étaient pleins, etc. Et des débats comme ça avec beaucoup de gens qui se connaissent pas entre eux, à plus avec des problèmes de langue, avec des problèmes comme dans tous les débats, des gens qui s'écoutent plus parler que les autres. Alors je dis pas que ça s'est passé, je n'y ai pas assisté, c'est vraiment une vraie question.
On a tout eu, là.
Est-ce que globalement vous pensez que les débats, alors ça doit être vrai selon tel ou tel débat, mais ça s'est quand même assez bien passé, que les gens étaient contents, ont quand même pu échanger.
Alors malheureusement, je peux vous parler que d'écho aussi, parce que comme on était à la tendance, la formation et tout ça, moi les débats que j'ai vus, c'est seulement ceux auxquels j'étais intervenant.
D'accord. Enfin, moi j'ai participé à certains comme intervenant et à certains comme écoutant. Globalement, ça s'est toujours passé dans ce où j'étais en deux temps. Il y avait des invités un peu spécialistes de la question qui faisaient un exposé liminaire, souvent assez ramassé, un peu schématique, voire deux, trois intervenants successifs sur la même question. Et après, et dans tous les cas, la parole a été donnée assez largement, voire très largement, au public. Avec, comme toujours dans ces affaires-là, des fois des interventions dont on ne comprend pas toujours la finalité, et quelques interventions tout à fait élaborées et futées, qui renforçaient ou au contraire mettaient en discussion des points de vue qui avaient été évoqués préalablement. Moi, j'ai trouvé que les interventions des gens étaient globalement plutôt de bonne qualité, quoi. Aussi bien des intervenants que nous, vous et eux avions invités, et des gens qui sont venus spontanément sur des thèmes qui les intéressent. Ça, c'est tout à fait clair. Puis je dirais, deuxième chose. Bon, bah vas-y, Philippe.
Non, mais tu notes la deuxième chose. C'est juste pour rebondir. C'était effectivement une grande capacité d'écoute, ce qui m'a frappé. Oui. C'est-à-dire que peut-être au début, il y a eu certaines perturbations, donc des interventions un petit peu spontex pendant que l'orateur ou l'oratrice parlait. Et puis, ça s'est auto-régulé assez vite parce que beaucoup de personnes, effectivement, voulaient écouter, prenaient des notes. C'était assez étonnant. Hein. Donc, une grande capacité d'écoute. Alors, le bémol, quand même, peut-être, qui est quand même gênant quelque part et contradictoire, c'est-à-dire une espèce de va-et-vient permanent, les gens rentrent, les gens sortent. Alors c'est pas dans tous les cas, hein. Ce qui est un peu contradictoire parce que finalement on est globalement contre la société marchande de consommation, hein, c'est-à-dire on rentre, on sort, on fait un peu comme à l'arrache, et des fois il y avait un peu des comportements qui ressemblaient à ça, quoi. Alors Je termine là-dessus. Le contrepoint, c'est que ça a été souligné par beaucoup, y compris par les médias officiels, c'est que les propositions, le calendrier était extrêmement riche. Donc il fallait aussi jongler d'un atelier à l'autre, d'une conférence à l'autre, d'un film à l'autre. Alors peut-être qu'aussi ça donnera à réfléchir pour ce type d'expérience en termes d'organisation au niveau horaire, mais bon, de toute façon, même dans les trucs classiques, les festivals, il y a des choses qui ressemblent à ça.
Oui, j'ajouterais à ce que disait Philippe, c'est que ce qui était intéressant aussi, c'est qu'on entend partout et nulle part que les gens ne veulent plus de théorie, que les gens ne veulent plus de discours, que les gens ne veulent plus de choses d'intello et veulent des actes. En l'occurrence, je pense à Saint-Imier, les gens sont venus écouter, prendre de la théorie et du discours pour agir demain ou après-demain à Saint-Imier ou ailleurs. J'ai vraiment cette impression-là. C'est-à-dire qu'on a besoin de cette culture qui passe par le discours pour mieux comprendre ce qu'est l'anarchisme aujourd'hui, ce qu'il a été hier et ce qu'il sera peut-être demain. Avec une double dimension, là aussi, qui renvoie, de mon point de vue, à une tradition anarchiste tout à fait importante. On n'avait pas fait le choix du tout politique et du tout militant et du tout théorisant. Il y avait ça, mais il y avait aussi des espaces culturels tout à fait intéressants et tout à fait importants. Ça allait de la musique punk, rock, musette d'hier soir à un concert de flûte classique en passant par...
Des ateliers pour la pédagogie, des ateliers pour des techniques de défense. Oui, c'était extrêmement divers. Hein.
Alors, par contre, ce qui m'a fait tout à fait drôle, c'est que vous aviez un espace... enfant qui était magnifique, propre, beau, j'y suis allé. Je m'y étais inscrit cet après-midi. J'y suis passé lundi en arrivant, je crois, ou mardi pour le visiter. Il y avait un gamin. Et cet après-midi où je devais aller, je me suis fait remplacer parce que j'étais appelé à d'autres choses. Les gens qui m'ont remplacé avaient deux gamins à garder. Il y avait cinq adultes pour garder les deux gamins. Donc les compagnons et la compagne sont revenus. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il semblerait que les parents qui avaient des enfants petits, on ne gardait que les enfants de 4 à 10 ans, et préférer, et il y en avait des enfants, les garder avec eux pour les associer à peu près en permanence à la vie de cette grande fête libertaire de Saint-Imier.
Tu veux dire que dans la garderie libertaire,
il y a eu très peu d'enfants.
De services publics, il y a plus d'encadrement que dans les garderies classiques, c'est ça.
Mardi, quand je l'ai visité, c'était le cas, et cet après-midi où je devais
c'est le contre-exemple de la dégradation du service public.
Absolument.
Moi, je voulais juste dire une phrase, mais qui permet à tout le monde de poser des questions et d'intervenir. On ne l'a pas dit, mais ça a quand même une grande importance. Bakounine est encore très influent, puisque chaque fois que les anarchistes organisent quelque chose, il fait beau. Et ce n'est pas une plaisanterie, parce que s'il avait plu, de grandes difficultés. Et le 1er mai, en tout cas en France, il a plu avant. Il a fait très beau le 1er mai, et on a fait un beau cortège de la Fédération.
Tu parles de Paris, là, camarade.
Je parle de Paris. Hein,
d'accord.
Je ne parle pas de Saint-Étienne.
Dans cette centralisation.
Je ne parle pas de Saint-Étienne. Il y a quand même quelque chose. Si on commence à faire la pluie et le beau temps, on peut aller au-delà tout de même. Bon, voilà, c'était un peu pour faire un intermède, mais qui est réel. Non, mais je plaisante, mais quand même, c'était important qu'il fasse beau.
Et chaud.
Et chaud.
Ouais, bien sûr, même s'ils annoncent des orages, mais on n'en a pas encore vu. Normalement, on a pu faire contourner même ça. Moi, il y a une autre chose que je retire quand même, parce que ça faisait quand même un moment qu'on remarquait que la pensée anarchiste a évolué, et puis que surtout les chapelles commençaient à y avoir des interpénétrations, c'est-à-dire des groupes, par exemple les deux principales internationales, Anarchismo et l'IFA, s'il n'y avait pas vraiment d'union entre les deux, mais par contre, au niveau local, très souvent, les militants qui étaient à plus ou moins affiliés à l'un et à l'autre pouvaient très bien travailler ensemble. Il me semble qu'il y a beaucoup moins de sectarisme et que il y a une volonté de faire, et c'est aussi quelque chose qu'on a ressenti. Et c'était bon de prendre cette température-là.
Bah de toute façon, c'était le pari de départ. C'était effectivement d'associer l'essentiel de l'anarchisme social dans la plus grande partie des régions du monde, effectivement. C'était ça le choix dès l'origine. Enfin, moi, je n'y étais pas, mais je vais avoir compris ça.
Même si on n'a pas pu finalement faire une déclaration commune, mais j'ai presque l'impression, je n'ai pas pu assister justement aux discussions pour une déclaration commune, mais j'ai presque plus l'impression, vous m'infirmerez ou me confirmerez, que c'est parce qu'on n'a pas eu le temps vraiment de travailler là-dessus que si... parce qu'il y avait des choses qui étaient incontournables.
C'est un peu plus compliqué que ça, pour être tout à fait franc. Je pense qu'il y a effectivement une déclaration commune qu'on a tenté d'élaborer et un certain nombre de copains et de copines de divers lieux n'ont pas encore bien compris ce qu'est la nature exacte à la fois de l'Internationale des Fédérations Anarchistes et ce qu'est la nature exacte du réseau Anarchismo. Hein. Le réseau Anarchismo est quelque chose de très informel et qui fonctionne globalement sur Internet, et c'est à ma connaissance une des premières fois où ils se rencontraient vraiment, tandis que l'Internationale des Fédérations Anarchistes est une organisation concrète avec des réunions 2-3 fois par an et un congrès tous les 4 ans. Et donc, ce n'est pas du tout la même chose d'une certaine manière. Voilà. Puis, il faut aussi dire que dans les deux associations, il y a des sensibilités du mouvement libertaire qui se sont historiquement constituées, qui se retrouvent. Mais particulièrement dans l'Anarchismo, il y a un certain nombre de gens qui pourraient aussi bien être à l'Internationale des Fédérations Anarchistes et qui sont plutôt associés au réseau Anarchismo. Donc effectivement, les choses bougent. Il n'est pas dit que les différences d'aujourd'hui perdurent longtemps et que les choses ne se transforment pas à terme, quoi. De là à ce qu'il y ait fusion entre les deux réseaux, ce n'est pas quand même de mal à veille.
Non, je voulais juste prolonger la réflexion là-dessus en disant que je pense que ce serait vraiment même prématuré. C'est-à-dire, bon, on aurait effectivement, peut-être, s'il y avait plus de temps, en enlevant des virgules, enfin, j'étais pas dans la discussion, avoir une déclaration qui se tient. Mais ce qui est important, c'est de savoir que, par exemple, au Brésil, Philippe, je passerai la parole, au Brésil, il y a des gens qui sont plutôt sur la ligne d'Anarchismo, il y en a d'autres qui sont sur des lignes, je n'irai pas plus près, mais c'est en fonctionnement assez différent, mais qui sont rencontrés, c'est un peu la réalité du terrain qui fera qu'on verra bien quelle est la solution qui sera la plus adaptée pour telle et telle région. Et je pense que chapeauter quelque chose au-dessus, même, il a été possible de faire cette chose concrète ensemble, ça c'est important. Il reste encore beaucoup de choses à voir, et ces choses à voir, je pense, elles sont sur le terrain. C'est-à-dire, est-ce que le tel type d'organisation au Brésil ou ailleurs, hein, ça va plus dans le sens de ce que propose l'IFA, ou ça va plus dans le sens de ce que propose, et qui peut être diversifié d'ailleurs, Anarchismo. Je pense que c'est le terrain qui répondra. Et même si je comprends l'espoir de Michel que ça se termine par un texte, mais je pense que ça aurait été prématuré. Bon, je passe la parole, Philippe.
Non, c'était simplement pour dire qu'il n'y ait pas eu de motion commune. Peut-être un petit peu dommage, mais finalement, c'est pas grave et c'est peut-être tant mieux. Parce que plutôt que de masquer une pseudo-unité, mettre à jour effectivement les différences, ça paraît important pour pas être artificiel. Cela dit, ce qui me paraît vachement important et moi qui m'a beaucoup intéressé, c'est où sont les différences ? Elles sont peut-être plus justement dans l'approche de la forme, de la façon de concevoir une motion. Et là, c'est marrant, il y a un peu la nouvelle et l'ancienne culture, et l'ancienne culture n'est pas forcément là où on la croit. Pas forcément justement dans les anciennes fédérations ou dans l'IFA qui est la plus ancienne. C'est-à-dire qu'en fait, le réseau Anarchismo, qui est un jeune réseau, a eu dans son, comment dire, exposé oral, expression orale, un truc vachement classique avec le papier hyper politique que tu lis, où finalement tu retraces tout. Parce que sur le fond, il n'y avait pas de grande différence, à part quelques points de détail ou pour les super connaisseurs, les spécialistes. Et en revanche, l'autre déclaration, elle était beaucoup plus dans la dynamique. C'est pas avec des grands discours qu'on va tout changer d'un coup. Enfin, voilà, c'était aussi sur cette forme-là que je trouvais ça assez intéressant.
Je suis même sûr que dans un autre monde toujours possible, l'une des déclarations finales aurait pu être élaborée et produite par l'un des réseaux, et à l'inverse, l'autre réseau aurait pu accepter la déclaration. Parce que sur le plan idéologique, quoi, sur le plan des idées, il n'y a pas de différence notoire. Après, sur les pratiques, les modalités, et puis des choses qui sont effectivement des choses très théoriques qui renvoient à notre histoire, quelquefois sympathique, quelquefois un peu moins sympathique, mais il n'y a pas de difficulté sur le plan idéologique. Donc ça veut dire que les deux réseaux vont dans le même sens, construire un mouvement libertaire en capacité de s'imposer, de reprendre une dimension sociale de reconnaissance, éventuellement, mais là, on verra ça un petit peu plus tard, d'être porteur de transformation sociale et d'expérimentation à mais grande échelle.
Je pense aussi qu'au niveau suisse, par exemple, les anarchistes organisés sont passablement à l'organisation socialiste libertaire, plutôt anarchismo, ce qui n'empêche pas que la Fédération libertaire des montagnes soit aussi fédérée au sein de l'OSL. Et nous avons ici, bien que nous ne soyons pas nombreux, une grande palette, peut-être parce que justement nous ne sommes pas nombreux, une grande palette de tendances d'anarchisme, au point même que ces derniers 1er mai, quand on défile, c'est non seulement avec des drapeaux noir et rouge, mais des drapeaux noir et vert de camarades de la Fédération libertaire des montagnes qui se revendiquent comme éco-anar.
Ouais. Oui, moi j'avais une question. Tiens, Monique, tu voulais pas nous passer un peu de musique, non? De façon. Oui, pour relancer une question. Débat,
oui, pas de problème. Je sais plus ce qui est calé. On verra
moi,
bien.
Moi je suis pas calé, hein.
Non.
Bonjour, je m'appelle la Terre. Entrez, vous êtes ici chez vous. Pour ma santé, faut pas s'en faire. Je suis en observation, c'est tout. Et je tourne autour du sommeil, couché sur l'étoile de mon lit. Un médecin sans frontières surveille ma température jour et nuit. Je souffre de l'Afrique gastrique, à chaque repas entre œsophages, les luttes intestines me ravagent, le gros colon fait du trafic, au cœur de l'Amérique, l'anémique, les rouges haïssent les globules blancs, de chaque côté du Pacifique et moi, je me fais du mauvais sang. C'est grave, docteur. J'ai mal à la terre, bizarre, cette odeur d'éther, ça tourne par an, je crois que je fais de la tension. Une douleur me transperce l'épaule, plus au sud en polynébrite. On m'a fait péter un atoll. Je sens plus rien, docteur, faites vite. Et je respire pas bien près des côtes. Malaise ou de l'asthme de Panama. Je transpire, j'étouffe, je suffoque. Je crois que c'est le régime qui me convient pas. C'est grave, docteur, j'ai mal à la terre. Bizarre, cette odeur d'éther. Près du poumon, j'ai comme de l'oppression. Je voudrais retomber en enfance, au pays des petits bobos, des maladies sans conséquences, qui portent des noms d'oiseaux. Écouter chanter les rougeoles, regarder passer les oreillons, voir les varicelles qui s'envolent et reviennent selon la saison. C'est grave, docteur, j'ai mal à la terre. Je suis devenu un continent, j'urine mon troisième océan. Du cancer, je trouve plus jolie la pleurésie. Dans le crachin du bord de la mer, j'attendrai sagement l'embellie. C'est grave, docteur, j'ai mal à la terre. Bizarre, cette odeur d'éther. Ça tourne par an, un peu d'affection. C'est grave, docteur, j'ai mal à la terre. Cette odeur d'éther,
Radio Libertaire 89.4, les discussions de pause musicale sont en train de se poursuivre autour de la table, mais nous avons repris l'antenne. Oh, mais oui, John fait de grands gestes affolés en se disant « Oh là là, les auditeurs ont entendu les bêtises que j'étais en train de dire ». Eh bien non, John, parce que ton micro était coupé, il n'y a pas de problème. Et je te l'ouvre tout de suite.
Merci Monique.
Monique, c'était méfiée dans les nerfs. Chaud, John.
Oui, ce que j'avais envie de dire, c'est que ce qui s'est passé dans ces rencontres, c'est que, en tout cas, moi je parlerai pour la Fédération anarchiste, on était présents en nombre et on a été présents partout, je dirais, à tous les postes, avec une entente et une répartition des tâches vraiment, je pense, intelligente et pas sexiste ou quoi que ce soit. Je trouve qu'il y a eu des bonnes, vraiment un aspect intéressant dans notre fonctionnement propre, et ça nous a, je dirais moi, fait passer à un autre degré de maturité dans l'ampleur d'événements qu'on peut envisager à l'avenir, et ouais. c'est plutôt une bonne dynamique.
Alors je fais une toute petite précision en tant que la seule femme présente autour des micros là. Les autres orgas, je ne les connais pas, mais je connais la Fédération anarchiste depuis déjà pas mal de temps. Je n'ai jamais, moi personnellement, vu de comportement sexiste dans la Fédération anarchiste. Ou alors, si j'en ai vu, ils n'étaient pas là où habituellement on pense qu'ils sont.
Je parlais en répartition des tâches parce que c'était important. Ça faisait partie du mode de fonctionnement qu'on voulait. C'était et dans l'équipe organisatrice et dans le public, de pas, par exemple, faire le ménage à des femmes ou de mettre les hommes trop en avant à certains moments. Il y a eu, en tout cas pour ma part, je pense que bosser avec d'autres organisations a été très intéressant, parce que on arrivera, quand tu parlais du fait qu'on n'a pas réussi à trouver tout à fait un texte commun pour clôturer ces rencontres, c'est pas grave, parce que je pense que au fur et à mesure on se connaît mieux, et c'est que en faisant ensemble des choses qu'on se connaîtra mieux. Parler c'est important, mais faire me paraît encore plus important pour se connaître, parce que on connaît beaucoup mieux les gens quand on les voit faire et quand on fait avec eux.
Oui, moi je la pratique, quoi, il n'y a rien à faire. Oui.
Moi je partage tout à fait ce que tu as dit, c'est pas grave. Ça aurait peut-être même été grave, enfin la motion, on va pas s'embêter, mais grave de donner comme exactement ce que tu as dit, l'illusion que ça y est, anarchismo, IFA, c'est pareil. Non, c'est pas pareil, et ça veut pas dire qu'il y en a une qui est mieux que l'autre. C'est à voir, moi je le dis, c'est aux gens sur le terrain à voir. Et s'ils ont envie de se fédérer dans le fonctionnement qu'a l'IFA, ou s'ils ont envie de. Bon, et puis ils verront bien. Et puis ce qu'il faut, c'est que ça prend une coupure, quoi. D'ailleurs, on a pu faire quelque chose ensemble. Moi, j'avais envie de poser. Oui, c'est la question que je voulais poser. Mais c'est vraiment une question. Hein. J'ai quand même été frappé par. Bon, j'ai une vision peut-être un peu déformée. Hein. C'est la vision que j'ai, en gros, c'est les gens qui sont venus ici. Bon, je dis une trentaine. Enfin, 20-25 pays différents, parce qu'il y a des choses qui ont pu se recouper, y compris des espérantistes qui venaient d'un peu partout. Dans beaucoup de témoignages, bon, il faut nuancer, hein, mais dans beaucoup de témoignages de la réalité à la fois du mouvement anarchiste, mais aussi, et ça aussi c'est important, du contexte social dans lequel aujourd'hui le mouvement anarchiste se redéveloppe dans certains pays, il apparaissait une écoute plus ouverte dans un certain nombre d'endroits, dans la mesure où les populations, malheureusement, sont très agressées, plus ou moins selon les pays, par le système, et la nécessité d'une je dirais pas d'une révolte, ça va pas toujours jusque-là, mais ne serait-ce que d'une survie alimentaire par endroit, fait que les propositions anarchistes sont mieux comprises. Un certain nombre d'endroits, je ne vais pas détailler tous les exemples, et y compris des endroits où les anarchistes ne sont pas forcément. Je parle de circuits courts alimentaires en Crète, je parle de communes de Crète qui se... pour prendre un exemple, mais il y en a d'autres, dans d'autres. Est-ce que ça s'est ressorti un petit peu dans les débats? Est-ce que ça nous ouvre des perspectives? Quand je dis nous, c'est le mouvement anarchiste en tant que tel, et si possible organisé d'une façon internationale. Est-ce que ce mot qu'on a pris, alternative anarchiste en acte, on s'est bien les trois, etc., qui sont reprises par des gens, mieux comprises par des gens, et d'autant mieux comprises quand ils s'organisent d'une façon le plus orientale possible. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez perçu? Moi je l'ai perçu j'ai eu l'impression de le percevoir dans un certain nombre d'interventions de compagnons qu'on a invités.
Alors moi, ce que j'ai perçu comme écho en faisant partie de l'équipe organisatrice, c'est qu'il y a des espaces de discussion où ça ressemblait peut-être plus à un état des lieux à un moment T dans certains pays, ce qui est de toute façon intéressant parce que ça fait un travail d'information important auprès d'autres pays d'un coup de manière assez massive, sachant que les réseaux en plus se renforcent, ça permet à tout le monde de rentrer en contact et d'ensuite maintenir tout ça et sûrement... J'espère que ça aboutira sur des perspectives, on va dire, concrètes politiquement. Mais il y a aussi, j'ai trouvé intéressant, quand on parle justement d'alternatives anarchistes en acte et l'anarchisme aujourd'hui et comment ça se traduit, il y a eu, je pense, un partage intéressant d'expériences entre différents niveaux de maturité organisationnelle, je dirais, et aussi... Et théorique. Donc, j'espère qu'en gros, les participants ou en tant qu'intervenant ou que le public prendra le meilleur des deux, en fait. Sera petit à petit allié de plus en plus une théorie vraiment liée à une pratique ancrée et dans une posture, je dirais, de proposition. Mmh. Et non plus de constatation ou... je pense qu'on commence, enfin ça serait intéressant qu'après ça aboutisse sur une plus grande maturité politique vraiment, enfin c'est ce qu'on souhaitait, puisqu'on voulait que ce soit vraiment un contenu politique un peu consistant et aussi avec bien sûr des moments pour se distraire.
Philippe, est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est une vision un peu trop optimiste? Est-ce que c'est pas une période où... Enfin, je vais faire un truc provocant qu'a dit Yanis Lountas quand on l'a invité. En gros, il a dit « Vive la crise ». Enfin bon, il explique pourquoi. C'est d'ailleurs le thème d'un film qui n'a pas pu être diffusé ici pour des raisons techniques, mais qui était là, on a reçu en même temps avec lui le réalisateur. C'est-à-dire que la situation de crise fait qu'un certain nombre de gens qui ne sont pas forcément anarchistes, de populations, sont obligés de s'organiser pour survivre et prennent souvent des schémas qui se rapprochent des propositions anarchistes, des schémas occidentaux, de toute façon les initiatives en dehors de l'État déjà. Et est-ce que c'est quelque chose que tu analyses comme ça, ou est-ce que c'est une vision un peu trop optimiste de la situation? Enfin, optimiste, non, c'est pas non, optimiste pour les gens qui vivent dans la souffrance, mais bon.
Je pense que de par le monde, il y a tout un tas d'initiatives de réaction et de résistance, dans le sens de résistance pour effectivement pallier... toutes les difficultés, la misère imposée par la situation actuelle. Moi, ce que j'ai trouvé, et avec ou sans les anarchistes d'ailleurs, j'ai trouvé intéressant, ce qui me paraît fondamental, c'est la question du lien. Du lien, de la fédération. Alors, fédération, c'est un côté un peu abstrait. On pense surtout à une fédération un peu politique, finalement, de communes, de choses comme ça. Or, le fédéralisme libertaire, c'est aussi le fédéralisme économique. C'est-à-dire penser le lien entre le local et le global. Or, un certain nombre d'expériences alternatives sont des expériences assez localisées. Et c'est pas comme ça que ni on renversera le capitalisme et l'État, ni on survivra. Hein? Donc, et ce qui, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que dans les bilans un peu comme ça de certaines initiatives, c'est que justement ces collectifs-là, ces groupes locaux, donc concrets, d'entraide, avaient fait un peu ce constat-là. C'est-à-dire, au bout d'une trajectoire, que ce soit de squat ou de coopérative, quelque chose comme ça, dire que bon, bah, ça y est, on a fait notre truc, on a eu un certain nombre d'erreurs, de tâtonnements pour le fonctionnement, etc. Mais on se rend compte que maintenant, là, ça ne suffit pas, quoi. Qu'il faut peut-être passer à une autre dimension. Alors ça c'est hyper important. Et ça fait partie des grands enjeux, hein, de la suite, parce que bon, bah, si tout le monde s'éparpille chacun dans son coin, ça va poser problème. Alors, après, sur un plan plus politique, c'est par exemple ce qui s'est passé aux États-Unis à propos du Patriot Act, avec le système fédéraliste américain, qui fait que finalement l'adoption de mesures d'un système relativement répressif, il s'est fait état par état, donc façon un petit peu par-ci, par-là, ce qui a empêché un mouvement national fort qui aurait pu être un nouveau marqueur d'un nouveau combat politique. Hein. Bon, par exemple, on sait très bien qu'il y a eu mai 68, pour les anarchistes, il y a eu 36, en Espagne, etc. Et c'est vrai que la nouvelle génération actuelle, un peu partout dans le monde, alors peut-être pas en Tunisie, hein, peut-être pas en Égypte, etc., peut-être pas à Madrid, je sais pas, mais manque de quelque chose de fort et qui aille au-delà d'un processus de contestation, de manifestation. Et comme un camarade l'a dit dans les débats, attention à ne pas se somnubiler avec le slogan de prendre la rue. Ou de faire le fait que descendre dans la rue est une solution. Non, la solution, c'est à un moment donné, c'est prendre l'usine, l'atelier et la terre, comme disait l'autre. Hein,
enfin, moi, je pense qu'en plus, les mouvements sont quelquefois de nature extrêmement différente. Entre un certain nombre d'entre nous aussi. Donc, entre les indignés que j'ai pu voir, moi, à Paris, qui, bon an, mal an, étaient des jeunes gens sympathiques, mais sans beaucoup de projets, et les indignés madrilènes, il y a des différences tout à fait considérables. Voire même à Lyon, où, semble-t-il, ils étaient relativement radicaux et relativement politiques, au sens noble du terme politique, et les Parisiens, alors je vais me faire jeter des cailloux, mais on leur a apporté 2000 euros par mois et un logement acceptable. Je pense qu'il dégageait tout de suite le parvis de la Défense, quoi. Donc c'était pas un mouvement de contestation globale, c'était « je n'ai pas suffisamment de quoi pour vivre ». Alors c'est vrai que c'est une vraie revendication, ça. On peut pas considérer que les gens qui disent « j'ai pas de quoi me loger, pas de quoi bouffer », c'est pas acceptable. C'est acceptable. Mais on a un peu l'impression que dans cet endroit-là, si on avait satisfait à ses besoins premiers, il rentrait dans le rang, et je ne dis pas qu'il serait pas devenu des gens avec lesquels on aurait eu du mal à débattre, quoi. Il y a des lieux où c'était beaucoup plus radical. Entre Occupy, dans un certain nombre de villes américaines, et le mouvement en Israël, c'est pas de même nature non plus. Alors c'est vrai qu'il y a de l'indignation partout, mais il n'y a pas beaucoup de révolutions quand même, sauf dans le Maghreb.
Le débat a peut-être déjà eu lieu, peut-être à Saint-Imier ou à Radio Libertaire ou ailleurs. Ouais. Est-ce que ce sont vraiment des révolutions, hein? Après, il faut s'entendre sur le terme de révolution. Oui,
dans la mesure où on casse un gouvernement et un système comme en Tunisie ou en Égypte, c'est une révolution. Elle peut ne pas être sociale.
Abattre un régime, c'est pas forcément un changement de régime non plus.
Ça peut être une révolution de palais.
Oui,
mais révolution ne veut pas dire révolution sociale, les anarchistes partout, les drapeaux noirs sur la grande mosquée du Caire.
Oui, mais justement, c'est parce qu'effectivement, dans l'esprit des gens, et je pense que c'est très important en termes de discours politique, de message, dire révolution, beaucoup de gens vont entendre révolution de palais. Ah bah c'est bon, on a changé de ministre, de président, basta, ça y est, on a gagné. Non, bien sûr.
Mais je suis bien d'accord.
Oui, oui.
Je suis bien d'accord avec toi.
C'est pour ça que moi, je pense qu'il ne faut pas appeler ça révolution.
Oui, oui, non,
c'est une position un peu personnelle.
Je
t'appuie.
Parce qu'il y a des changements, non pas de régime, mais d'équipe de dirigeants.
Oui.
Et ce qui manque dans tous ces milieux-là, aussi bien en Israël qu'à Madrid, que même pour une large part les gens de Coupaille nord-américains, voire les jeunes Québécois, c'est pareil, là, qui ont manifesté contre les droits universitaires, voire même en Tunisie ou ailleurs, c'est un projet politique. C'est-à-dire je me révolte, je m'indigne, je conteste le FMI ou je vire Ben Ali, et après. Hein, et je pense que le mouvement anarchiste, alors sans donner de leçons, sans dire nous allons diriger, sans dire on a compris tout et on sait comment il faut s'organiser, est peut-être pour ces mouvements-là une occasion de conjonction entre la révolte légitime pour mille et une raisons d'Israël à San Francisco et maintenant que je suis révolté, qu'est-ce que je fais de ma révolte ? Hein ? Est-ce que j'attends des satisfactions immédiates et les miettes du système libéral ? Ou est-ce qu'on va au-delà de ça ? Et ça, ça me paraît extrêmement important de dire, bah, nous, on ne sait pas faire. Les révolutions qu'on a tentées, bon an, mal an, ont fonctionné pendant un temps, mais on a été largement réprimés. On a des outils, on a une pensée, on a des modes d'organisation. Vous êtes en train de les réinventer sans toujours le savoir. Mettez-les à l'œuvre, reprenez régulièrement les choses sur le métier. Et peut-être que si on arrive à cette conjonction entre révolte, indignation, occupy et cette conceptualisation qu'a fait le mouvement libertaire depuis 150 ans, eh bien, il est possible que cet anarchisme-là soit en route. Mais il est peut-être trop tôt aussi pour le dire.
Oui, oui, je pensais pas spécifiquement au moment des indignés, même si traduit effectivement des gens qui viennent dans la rue, dont certains viennent des classes moyennes, mais il y en a d'autres. Bon, je pensais vraiment à des exemples très concrets qu'on a entendus ici. Par exemple, en Grèce, comme les gens ils ont des gros problèmes, il y en a un certain nombre qui ont des cabanes à tel endroit, ils repartent à la campagne. Bon. Et ils repartent à la campagne, il y a des paysans, il y a des circuits courts qui se mettent en place, il y a des communes qui sont autonomisées, qui ne payent plus les impôts, qui se coordonnent avec d'autres communes. Moi, je parlais de ces initiatives-là, dans lesquelles il n'y a pas forcément, il y a peut-être des anarchistes, mais je pense qu'on, dans l'image que donnent les médias déformés, mais que peut-être aussi a un impact sur nous, on a peut-être trop tendance à voir ce qui se passe dans les grandes villes. C'est important, il y a du monde, effectivement, il y a les indignés, il y a des grosses manifs, et c'est bien qu'il y ait ça, hein, c'est pas du tout une critique. Mais je pense qu'il peut se passer des choses qui ne sont pas accessibles par les médias, et moi j'en ai perçu quelques-unes de choses extrêmement concrètes et extrêmement intéressantes avec ou sans des anarchistes, mais qui montrent que les propositions qu'on fait, et ça je le redis, je l'ai ressenti, et je crois pas m'être trompé, et en plus, bon, on a déjà fait des émissions avant sur ces thèmes-là, avec des expériences en Patagonie, des expériences dans divers pays. Moi, je pense qu'on est dans une période très dure, de plus de souffrance pour beaucoup de gens, mais en même temps, pour ceux qui s'engagent dans une opération de survie, ils mettent en place des initiatives horizontales. Les propositions marxistes, elles ne marchent absolument pas dans la solution. C'est, ils ne cherchent pas des chefs, les gens. Les politiques sont dans la plupart des endroits complètement déconsidéré. Et là, je suis d'accord aussi. Je suis beaucoup d'accord avec Philippe, finalement. On s'est pas concerté. Je suis d'accord avec lui. Hein. On s'est pas concerté, hein, c'est vrai. C'est l'enjeu qui va être, non seulement pour les anarchistes, mais après tout, les anarchistes, c'est bien si on est plus nombreux, si on fait plein de choses. Mais ce qu'on veut, c'est que les gens s'organisent sur des bases dans lesquelles ils ne sont pas floués, où ils ont pesé sur leur vie. Et l'enjeu, je pense, il est dans le fédéralisme libertaire. C'est-à-dire, comment, c'est ce que tu as dit, de toute façon, comment... que ces initiatives, petit à petit, les gens aient envie qu'elles ne restent pas locales, ne serait-ce que parce que ça leur a apporté quelque chose, etc. Je pense que ça, cette envie-là, elle est chez la plupart des anarchistes qu'on a vu là, en tout cas. Mais peut-être, petit à petit, les gens vont avoir envie d'aller voir un peu plus loin, y compris quand ils se bagarrent sur un quartier, dans une commune. Je dis peut-être. C'était ça le sens de ma question. Hein. C'était pas... je suis d'accord avec tout ce que tu as dit hein, sur le mouvement des indignés, leur diversité... Alors, relativement peu de perspective, en tout cas, de ce qu'on a vu, effectivement. Et encore, je ne peux pas dire en France, qu'on a vu à Paris, parce que ce n'était pas forcément dans telle ou telle ville. Non, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est comment ces velléités d'auto-organisation, d'autonomie, qui existent aussi, hein, chez les peuples indigènes qui luttent depuis 500 ans, qui existent dans les luttes des petits paysans qu'on oublie, mais qui sont extrêmement fortes dans pas mal de pays, et qui s'organisent... de plus en plus de circuits courts, de plus en plus de luttes pour les terres. Si tu as parlé des luttes pour les terres, on en voit de plus en plus. Bon, en Andalousie, bon, c'est pas une surprise, hein, mais enfin, il y en a ailleurs, il y en a en Inde, il y en a partout en ce moment. Et qu'on le veuille ou non, tous les circuits alimentaires courts, ne serait-ce que pour la survie, c'est important. Et quand ça peut pas se faire qu'à une échelle locale, il faut qu'il y ait des échanges, etc. Bon, c'est le contexte. Je ne sais pas ce que ça va donner. Moi, je pense que... De toute façon, ça dépend des gens. Hein. Bon, nous, on propose des solutions, des fonctionnements, des textes, des envies d'organisation. Mais si les gens les reprennent, c'est super. Et s'ils ne les reprennent pas, quand les mouvements sociaux sont forts, l'anarchie se développe, quoi, pour résumer un peu tout ce que j'ai dit. Mais moi, j'ai l'impression que c'est une période où il y a possibilité d'une vague beaucoup plus forte. Maintenant, bon, c'est pas, et je ne dis pas ça dans l'euphorie d'un congrès. Hein. C'est d'un congrès ou d'une rencontre à Saint-Imier. C'est vraiment... enfin, je ne sais pas si Monique qui fait régulièrement des émissions, on les fait ensemble. C'est vraiment tout ce qu'on, les témoignages qu'on a depuis plusieurs années, quoi. Voilà, je ne sais pas ce que tu en penses.
Non, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un certain nombre de lieux et d'individus qui font de l'anarchisme sans le savoir.
Voilà, exactement. Voilà. Ça, c'est important.
Voilà. Alors après, qu'ils se revendiquent de notre mouvement ou pas, à la limite, on s'en contrefou. Pour peu que leurs pratiques sociales immédiates et que leurs projets politiques et sociaux soient cohérents avec nous. Donc c'est avec des gens avec qui on peut tisser des liens d'amitié tout à fait évidents. Et ce qu'il faut, c'est que ces pratiques-là fassent tache d'huile, mais que tôt ou tard, comme vous le disiez, se fédèrent, c'est-à-dire qu'on ne peut pas rester isolé.
Absolument.
Le fédéralisme libertaire, c'est effectivement l'autonomie des unités de base. Il n'est pas question d'y retoucher, mais une unité de base autonome qui auto-produit sa propre richesse sans s'intéresser à ce qui se passe à côté, pour partager cette richesse-là et voir ce qui se passe dans les unités qui sont périphériques, ça ne nous intéresse pas. On a connu beaucoup de coopératives ouvrières. Effectivement, on monte une coopérative ouvrière pour se créer un îlot, même pas de socialisme, mais de bien-être, sans se préoccuper de ce qui se passe ailleurs. Notre intérêt à nous, c'est que toutes ces initiatives d'auto-organisation et d'auto-gestion à la fois fonctionnent parce qu'elles démontrent que le système est valable, mais qu'elles se fédèrent dans un système solidaire, c'est-à-dire j'aide les autres et les autres m'aident, et pas je tire ma petite gamelle tous les soirs, sinon on retombe dans des formes d'individualisme que d'aucuns diraient petit bourgeois. Ça ne nous intéresse pas.
Avant juste une pause musicale, un exemple justement de positif, je pense, d'initiative, de réponse à la crise et en même temps de cette réponse à envie de se fédérer avec d'autres, c'est l'entreprise Zanon en Argentine. Je ne vais pas refaire toute l'histoire, mais bon, les ouvriers ont une autogestion autour de cette entreprise avec toute une histoire. C'est celle qui marche mieux d'ailleurs en Argentine. Et ce qui est très important, c'est qu'au-delà de la gestion, qui est d'ailleurs intéressante de l'ensemble d'entreprises par les ouvriers eux-mêmes, ils interviennent sur le quartier, ils sont intervenus pour aider à la construction d'un hôpital, ils sont en lien avec les Indiens Mapuchés parce que c'est les Indiens Mapuchés qui fournissent la matière première. Enfin, ils sont très ouverts, ils organisent des réunions de l'ensemble des usines occupées en Argentine, et je sais qu'il y a un projet plus large parce qu'il y a aussi des occupations ailleurs, et donc non, je m'adresse à Hugues effectivement, mais j'ai pas le droit de le regarder, je sais.
Tu parles au micro.
Je parle pas dans le micro. Et une initiative comme ça est intéressante parce qu'elle est ouverte sur le quartier, ce qui d'ailleurs a servi à les défendre contre les flics. Oui, voilà, Hugues voulait en reparler.
Oui, c'est bien après... ça qu'il s'agit, si tu veux, l'anarchisme, quand il va dépasser des micro-expériences que nous conduisons ou que d'autres conduisent sans le savoir. Ailleurs, l'intérêt, c'est de connaître l'ensemble de la chaîne. Mmh. C'est-à-dire qu'effectivement, les Indiens produisent de la matière première, on sait la transformer à tel ou tel endroit, sachant qu'à terme, il faudra peut-être apprendre aussi aux Mapuches de la transformer, sinon ça pourrait prendre des formes de colonialisme telles qu'on les a connues ailleurs et de pillage, il faut faire attention. On la transforme et on la distribue autrement. C'est-à-dire que l'anarchisme, c'est la prise en charge et le contrôle de la matière première, de l'extraction ou de la production agricole, de sa transformation et de sa distribution dans les circuits les plus courts possibles, de manière à ce qu'il y ait le moins de déperdition possible, à la fois d'énergie et de travail. Pour si on veut travailler moins, il faut travailler plus intelligemment.
Monique, une musique qui illustre bien le propos de Hugues.
N'avez-vous pas de mémoire ? Revoici les années noires qui montrent leur nez pas bien loin. Revoici les années 30 ou alors leurs descendants de fringues et chic présentant bien. Ein Volk, ein Reich, ein Führer, un gros Duce en fureur, voilà ce qui était en chemin. Aujourd'hui, ce qui s'avance, c'est la même pestilence. Et vous ne dites rien. N'entrevoyez-vous pas derrière la propagande grossière et des slogans assénés? Derrière l'homme providentiel quasiment tombé du ciel, juste à point pour nous sauver. Comme l'ombre, comme l'image, grisâtre, vieillie par l'âge, de la barbarie du passé. Même racisme, même brute, même vertige, même chute, et vous restez muet. N'ont-elles rien qui vous débecte ces publicités infectes qui maculent nos journaux? Est-ce parti, valet des riches, qui se prétend sur ses affiches doux et blanc comme l'agneau, qui déterre des peurs anciennes pour appeler à la haine sur fond d'Alpes et de drapeaux, tandis que son chef ricane et triomphe et se pavane? Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il vous faut? Ne voyez-vous pas l'évidence, les provoques et la violence qui montent dans ce pays, où sans honte des cyniques arrivistes politiques s'inclinent ou bien se rallient, où l'on prépare le lit de l'horreur et de la nuit en se pensant à l'abri? Quel tocsin faut-il sonner? Combien de cris désespérés faudra-t-il lancer ici? Quel tocsin faut-il sonner? Combien de cris faut-il lancer, putain, pour vous réveiller?
Année 30, Michel Buller, sur Radio Libertaire 89.4, où nous achevons aussi bien que nous le pouvons nos directs depuis Saint-Imier. Mais il faut l'avouer, là, tous autour des micros et de la table, voire un petit peu plus loin, on a tous des tout petits yeux. On a beaucoup de mal à faire coïncider deux neurones, parce qu'on les a tellement mis à contribution, les neurones, les muscles et tout ce dont on a eu besoin pendant ces cinq jours. Je passe un peu la parole à Hugues et on va bientôt, je pense, se dire au revoir.
Ouais, ce que je veux dire, moi, si j'ai la conclusion un petit peu sous la main là, ou sous la langue, c'est que c'était pour le mouvement anarchiste français, puisque la Fédération anarchiste a beaucoup participé à cette affaire-là, et particulièrement les camarades de l'Est de la France et de Besançon, un gros engagement pour les camarades de l'Espace Noir et puis des organisations romandes de Suisse. C'était un très très gros pari, compte tenu que nous avons des petites organisations, et que ces petites organisations ont essayé de porter une manifestation internationale qui se voulait de grande ampleur et qui se voulait réenclencher le mouvement anarchiste social. Voilà. Et ce pari, je pense que nous l'avons réussi. Nous sommes petits, mais plusieurs milliers de militants et de militantes anarchistes sont venus à Saint-Imier. On peut penser que ces gens-là vont repartir chargés d'énergie, d'intention et de théorie.
Et
de contact. Oui, et malgré les craintes qu'on pouvait avoir de se planter, parce que c'était un gros engagement financier, un gros engagement humain pour nous, je crois que les journées de Saint-Imier auront marqué l'histoire de ce mouvement libertaire, au moins localement, c'est déjà ça. Et puis, c'est une belle réussite, quoi. C'est vraiment une très très belle réussite. Et en plus, comme disait Serge tout à l'heure, Bakounine nous avait mis le beau temps, ce qui a quand même très largement facilité les choses.
C'est quand même important.
Voilà. Et puis alors, sans vouloir faire l'office du tourisme, si vous avez l'occasion, venez à l'Espace Noir, c'est magnifique, la montagne est belle, c'est vert, on peut se promener sans forcément être un athlète de la marche à pied, les gens sont accueillants. Par contre, le niveau de vie des Suisses est relativement élevé. Enfin, je ne sais pas si leur niveau de vie est relativement élevé, mais le coût de la vie ici est extrêmement cher. Donc, ça, c'est une des grosses difficultés pour pas mal d'entre nous aujourd'hui. Les Français un peu, mais imaginez les Mexicains, les Vénézuéliens ou d'autres camarades venus de Tunisie. C'est vrai qu'un franc suisse, je ne dis pas que c'est un mois de salaire, mais ça représente pour eux une somme tout à fait considérable. Voilà. Donc, une belle réussite. Plusieurs milliers d'anarchistes réunis à Saint-Imier, le redémarrage de projets collectifs, des formes d'anarchisme multiples et variées, mais l'anarchisme est multiples et variés. Reste à construire, on verra quelle est la forme dans le multiple qui est la plus pertinente ici ou la plus pertinente là.
Oui, je voulais rajouter, mais cette fois peut-être plus spécifiquement, ce qu'on a fait avec Radio Libertaire et qu'on va donc continuer à faire, et c'est pour ça que j'en parle aux auditeurs. Déjà, tout l'ensemble des à peu près 30 enregistrements qui ont été faits en direct sont accessibles sur le podcast de Radio Libertaire pendant un mois. Voilà, déjà, c'est une première chose. Une deuxième chose, ont lieu d'autres enregistrements qui ne sont pas passés en direct, mais comme on avait le matériel, on en a profité, et surtout qu'on avait des gens qui venaient de divers pays. Donc, il y a tout un travail à faire là-dessus, n'est-ce pas, Monique, qui est à ma gauche. Peut-être qu'on essaiera de répartir un peu. Mais de toute façon, en septembre, il y aura donc d'autres enregistrements qui seront diffusés, notamment dans le cadre de l'émission Trou Noir, dans le cadre de l'émission Espéranto, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont aussi passées autour de l'espéranto, vu que des espérantistes, il y en avait de pas mal de pays. Et puis, on a enregistré aussi un certain nombre de choses qui se sont passées dans des débats, dans des ateliers. Alors, tout n'est pas utilisable pour mettre directement l'antenne, mais par contre, je peux vous dire qu'il y aura un numéro spécial du Monde Libertaire qui va être consacré à Saint-Imier et qui pourra utiliser justement ces enregistrements, ces débats, en tout cas la partie qui nous paraîtra la plus intéressante. Il y a un certain nombre de contributions qui d'ores et déjà ont été mises en place, notamment sur la Grèce et sur d'autres pays, qui compléteront tout ce qu'on a pu voir ici. Donc, je ne sais pas d'ailleurs si tu sais, vers quelle période il sortira. Alors, il y a un gros boulot, de toute façon, donc on verra, on informera par Radio Libertaire de ce numéro que j'espère beaucoup de gens s'arracheront. Il est possible que un certain nombre de choses soient faites sans ce soit un engagement précis, mais ça a été évoqué au niveau de l'écrit, c'est-à-dire un document, un bouquin qui reprendrait les choses qui nous paraîtraient à nous et à d'autres les plus intéressantes. Il y a un film qui a été réalisé.
Des films.
Enfin, je parle d'un film particulier parce que le cinéaste est venu ici. C'est un cinéaste que connaît Philippe Pelletier qui a visiblement du très beau matériel. Il y a eu des tas de films. Donc, il y a à la fois des vidéos, du son, un certain nombre de choses, de textes qui seront écrites. Donc, moi, j'engage tous les auditeurs et toutes les auditrices à se tenir un peu au courant par Radio Libertaire, aussi par Le Monde Libertaire, de toutes ces initiatives pour essayer de prolonger quelque chose qui est important, mais qu'il sera d'autant plus qu'il se passe des choses après et que les gens puissent réfléchir un petit peu à tout ce qui a été dit et puis que ça serve pour l'action qui continue.
Oui, ça sert pour l'action. Voilà, il ne s'agit pas simplement de consommer de l'anarchisme qui a été produit à Saint-Imier. Il s'agit de s'alimenter de ce qui s'est dit et produit à Saint-Imier pour construire l'anarchisme et éventuellement le vivre demain. Pour donner quelques précisions à ce que disait Serge à l'instant, si tout se passe comme les camarades le souhaitent, le numéro sur Saint-Imier du Monde Libertaire serait plutôt du côté de novembre ou juste avant les vacances de Noël, comme on le fait fréquemment. Et nous aurions probablement un autre Monde Libertaire hors série qui paraîtrait, lui, plutôt en février, où nous reprendrons une partie des choses qui ont été dites sur les questions de l'éducation. Il se trouve que je suis un peu spécialisé sur ces questions. Aussi avec l'expérience que nous avons évoquée hier soir sur Radio Libertaire, l'expérience argentine de la Fédération Libertaire Argentine, ou l'expérience à la plus historique, et encore que dans les quartiers de San Paolo et de Rio, il se passe des choses, sur la question de l'éducation, puisqu'on aura un hors-série sur l'éducation. On essaiera de faire connaître d'autres réalisations que les traditionnelles réalisations du mouvement libertaire français ou de proximité.
Et une dernière chose, mais là c'est dans les espoirs, mais enfin avec la volonté que ça se concrétise, on a eu des échanges avec des compagnies anarchistes de plusieurs pays qui ont envie de monter des radios libres et on les a assuré que Radio Libertaire les aiderait au maximum dans cette perspective. Voilà,
donc si vous en êtes d'accord, je conclue par un mot tout à fait simple et cohérent, vive l'anarchisme.
Comme c'est beau.
C'est beau, hein? C'est beau comme un poème.
Absolument.
Mais pas de Louis Aragon.
Ah non. Oh ben non. Même s'il a tout de même écrit des belles choses, mais c'est un sale type.
Oui, j'ai oublié une dernière chose extrêmement importante. Je l'ai fait au début de cette émission, mais je le refais à la fin, de remercier toutes les compagnes et compagnons qui sont dans les studios à Paris et qui ont permis qu'on fasse ces émissions. Sans eux, on n'aurait pas pu le faire. Donc, je ne les nomme pas tous.
Et non, mais là, je crois qu'on peut faire des super grosses bises à Anne et à Erwan.
Allez, je sais qu'ils sont là-bas.
Bises à Erwan et Anne.
Voilà. Et ben, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ?
Nous irions bien manger.
Ah, moi, je pense qu'il voilà. avait conclu par une phrase qui était bien.
Ouais, vive l'anarchisme, on ne peut pas, ouais, on peut pas aller plus loin que ça.
Ben on ne peut pas dire mieux. On peut pas dire mieux.
Donc, on l'a dit aujourd'hui, nous le ferons demain.
Voilà.
D'accord. Bon, à quelle heure ?
On ne va pas se lever trop tôt demain. Enfin, on va pouvoir peut-être respirer.
Comme les flics nous écoutent certainement, on fait attention.
On ne va pas leur dire l'heure.
On ne donne pas l'heure.
Ah, ben voilà, d'accord.
Il y a lieu, d'ailleurs.
D'accord. Alors, espérons tout de même que tous les flics que nous rencontrerons sur notre route seront aussi discrets que ceux que nous n'avons pas vus, ou presque pas, à Saint-Imier, parce que là, quand même, vraiment, c'était agréable.
C'était un espace sans flics dont on a auto-organisé la sécurité. C'est extraordinaire.
C'est vraiment extraordinaire.
Donc les flics ne sont pas là pour faire la sécurité, finalement. Ils provoquent beaucoup plus d'incidents, souvent, que leur présence, d'ailleurs, souvent, dans les manifestations, fait qu'il y a de la violence. Et c'est souvent cette violence dont ils se servent.
Absolument.
Bon, on fera une émission sur la police partout, la justice nulle part, en rentrant chez nous.
Voilà, on va boire un coup avant.
Ah bah bravo, c'est bien ça. Bon, allez, on va effectivement se quitter pour les rencontres internationales de l'anarchisme qui ont eu lieu du 8 au 12 août à Saint-Imier. Tout le monde est ici et très 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 content de ce qui s'y est déroulé. Et nous sommes aussi tous très 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 crevés. Je pense que personne ne va me contredire là-dessus. On va
passer la musique de Bonne nuit les petits maintenant. Gros nounours qui va arriver.
Même sans musique, non. Alors, je dormirai bien ce soir.
Là... Mais nous, gros nounours, non. Nicolas et Pimprenel.
Non, je ne vais pas mettre gros nounours. Je vais mettre en revanche Ni Dieu ni flotte, Rémo Gary. Ah bah oui, c'est super.
Super chanson.
Ah bah oui. Et on verra après si... Alors on ne reprendra pas le micro pour parler. On va voir si on... avec le studio à Paris, s'ils peuvent reprendre l'antenne. Mais pour le moment, un petit peu de musique.
Bon, allez. On ne croit pas aux clous des fakirs. On ne croit pas aux clous sur les croix, ni à l'eau, ni à l'au-delà. On préfère le communard au kir. On préfère le bonnet à la calotte, ni Dieu ni flotte. On préfère le bonnet à la calotte, ni Dieu ni flotte. On se mouille, on tâche nos chemises. Ça fait bien 100 ans que l'on trinque à la loi de 1905. Nous, on donnerait bien les églises aux sans-abri ainsi qu'aux sans-culottes, ni Dieu ni flotte. On ne craint pas les fûts, les canons, ni le tonnerre de vos dieux, ni les bonbonnes de vin vieux, ni les foudres de Saint-Émilion. Qu'il en tombe comme à Gravelotte, ni Dieu ni flotte. Il en tombe comme à Gravelotte, ni Dieu ni flotte. Sur on vote rouge à chaque tour. On fait quasi tous les métingues en donnant du poing sur le zinc. Notre révolution de velours, c'est du moins du velours pour nos glottes, ni Dieu ni flotte. C'est du moins du velours pour nos glottes, ni Dieu ni flotte. On fait le tour du monde en ballon. On baptise jamais le vin, on n'a pas besoin des divins. On atteste que la terre est ronde. Qu'ils refourguent à d'autres leurs camelottes, ni Dieu ni flotte. Qu'ils refourguent à d'autres leurs camelottes, ni Dieu ni flotte. On ne croit pas aux clous des fakirs. On croit pas aux clous sur les croix, ni à l'eau, ni à l'au-delà. On préfère le communard au qui. On préfère le bonnet à la calotte, ni Dieu, ni Flore.